Jean Essayant gekommen sind. Er wird leider nicht vorspielen, aber er ist sehr gut vertreten durch Nicole Berthold, die alles über Boris Vian weiß, sodass ich nicht unbedingt noch etwas hinzufügen möchte, bevor sie spricht. Donc, je disais que je n'allais pas rajouter quelque chose avant que vous allez parler, puisque vous le connaissez bien évidemment mieux que moi. Moi, ce qui m'a frappé, parce que mon propre frère est centralien, c'est que quand même, Boris Vian avait des mots très, disons, très forts en ce qui concerne l'école centrale, mais c'est important de savoir, mais on va voir les détails tout de suite, que Boris Vian était non seulement un auteur, c'est sous ce jour que la plupart des Français le connaissent, comme auteur littéraire, mais aussi lui-même amateur de jazz. Qu'est-ce que je peux prendre ami de nombreux...
Miles Davis,
voilà. Claude Luther et bien d'autres, des Américains à Paris qui ont marqué les années 50, mais on va entendre parler de ça. Alors, pour le déroulé de la journée, alors je remercie également Viviane Atlantin qui nous a prêté 4 de ses dessins de Boris Vian, que vous trouverez dans l'entrée. Also, sie finden im Eingang 4 Porträts von Viviane Atlantin, die sie von Boris Vian gemacht hat. Ich möchte aber nicht länger Sie aufhalten, nur sagen, dass wir nach diesem Vortrag Gelegenheit haben werden, Kurzfilme von, mit, über Boris Vian im Kino nebenan zu sehen. Donc on verra les courts-métrages après l'exposé de Madame Berthold ici à côté au cinéma. Voilà. Donc, j'espère que j'ai dit l'essentiel.
Je vous remercie et je remercie l'Institut Brehm de m'accueillir et d'accueillir l'esprit et la pensée de Boris Vian.
Je pense qu'il aurait été très bien dans cette salle.
Je crois aussi. Je crois aussi. Je pense qu'il faut peut-être commencer par me présenter pour remonter le temps.
Also möchte sich zunächst vorstellen, um die Zeit wieder zurückgehen zu können.
Parce que c'est une sorte d'histoire dans l'histoire.
C'est une Geschichte in der Geschichte.
Boris Vian est mort le 23 juin 1959.
Also Boris Vian ist am 23. Juni 1959 gestorben.
On peut dire qu'il n'avait aucun succès, laissé aucun succès derrière lui.
Man kann sagen, dass völlig ohne Erfolg dahin gegangen ist.
Et finalement, toute son œuvre et la pensée de Boris Vian, on le doit d'abord à son épouse, Ursula Vian Kübler.
Also alles, was man von seinem Werk hinterher erfahren hat, schuldet man seiner Frau Ursula Vian Kübler, qui était suisse.
Voilà,
et
qui était suisse alémanique, qui était suisse allemande. Mm-hmm. Et donc il y a un lien profond pour moi, dans la mesure où j'ai travaillé 30 années avec Ursula Vian.
Ah ja, deswegen gibt es eine tiefe Verbindung zum Deutschen, weil sie 30 Jahre lang mit Ursula Vian zusammengearbeitet hat.
Elle était très attachée à son pays, la Suisse, mais plus particulièrement la Suisse allemande, et donc parlait couramment allemand.
Also sie war ihrem Land sehr verbunden, insbesondere der deutschsprachigen Schweiz, und sprach natürlich fließend Deutsch.
Ce qui a valu que Boris Vian soit traduit en Allemagne dès 1964.
Das hat dazu geführt, dass Boris Vian ab 1964 ins Deutsche übersetzt wurde.
Et il y a toujours eu un grand lien entre l'Allemagne et la France pour Ursula à travers l'œuvre de Boris Vian et le travail des éditeurs.
Also es hat immer eine starke Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich für Ursula gegeben, eben durch dieses Werk und die Verbindung zu den verschiedenen Verlegern.
Donc je tiens à lui rendre profondément hommage parce qu'elle a été un peu comme une mère pour moi.
also mir liegt daran, an Sie zu erinnern, Sie zu würdigen, da sie wie eine Mutter für mich gewesen ist.
Ursula Vian est morte il y a 5 ans. Malheureusement, elle avait entamé une procédure d'adoption à mon égard qu'elle n'a pas pu mener à bien car elle est morte brutalement.
Ursula Küppler ist vor 5 Jahren verstorben, leider, und sie hatte ein Adoptionsverfahren angestrengt, die Frau Berthold betrifft, aber leider ist sie vorher verstorben.
Dans la mesure où Ursula était danseuse, et danseuse de très haut niveau, elle a bien sûr émis le souhait à un moment donné d'avoir un enfant avec Boris Vian, ce qui n'a jamais pu être le cas.
Also weil sie eine Tänzerin, auf sehr hohem Niveau gewesen ist, wollte sie ein Kind mit Boris Vian haben, was ihr nie gelungen ist.
Et le lien est tout simplement là, c'est qu'Ursula est morte sans enfant, et on va dire qu'elle a entre guillemets adopté un certain nombre d'enfants, dont moi.
Also die Verbindung liegt darin, dass sie kinderlos geblieben ist, mehrere Kinder adoptiert hat und unter anderem eben von einem Vater.
Il faut dire que j'ai résisté, car de vivre aux côtés d'Ursula Vian et de tous les copains de Boris qui étaient vivants, puisque j'ai rencontré Ursula il y a 39 années, il faut être solide.
Also sie sagt, sie hat starken Widerstand geleistet, weil man festgebaut sein muss, um all dem zu widerstehen. Sie kennt also Ursula Vian schon seit 39 Jahren und eben auch alle Freunde Vians, die um sie herum waren.
Ursula se considérait comme une saltimbanque dans son Zurich natal, où pourtant elle était issue d'une famille d'une certaine bourgeoisie, une famille très cultivée également, mais elle se considérait comme saltimbanque. Parce qu'elle était danseuse.
C'est difficile à traduire ça. Sie betrachtete sich als Tausendsassa, als künstlerische Natur, obwohl sie aus einem sehr bürgerlichen Hause, Zürcher Hause, stammte.
Et quelque part, Boris Vian se considérait aussi comme un saltimbanque. C'est-à-dire des gens qui n'ont finalement pas de patrie et qui sont capables de s'orienter dans tous les arts.
Ja, und auch Boris Vian zählte sich also als Tausendsassa zum fahrenden Volk, Leute, die eben keine Heimat haben und die in allen Künsten beheimatet sind.
Moi-même, à mon petit niveau, lorsque j'ai rencontré Ursula, j'avais 19 ans, je me considérais aussi comme une saltimbanque, c'est ce qui certainement nous a valu cette rencontre.
Also auch ich, als ich Ursula Vian begegnet bin mit 19, betrachtete mich selbst also als Künstlernatur und das ist wohl der Grund, warum wir uns begegnet sind.
Il est vrai qu'Ursula a quitté l'école à l'âge de 15 ans, moi-même je l'ai quitté également à l'âge de 15 ans, elle pour travailler et se consacrer entièrement à la danse, et moi-même pour me consacrer à l'époque aux enfants malades.
Also sowohl Ursula als auch Madame Berthold haben damals die Schule mit 15 verlassen, sie um sich ganz dem Tanz zu widmen und Madame Berthold um sich kranken Kindern zu widmen.
Et si je vous raconte tout ça, vous comprendrez petit à petit pourquoi c'est très important, parce que dans cette histoire, il faut remonter le temps. Et c'est vraiment cet esprit-là qui a fait que l'esprit de Boris Vian est resté très présent après sa mort, parce que personne n'a voulu s'en emparer.
Also der Geist von Boris Vian ist nach seinem Tod sehr präsent für sie gewesen, weil niemand dieses Wesen fassen wollte. Und deswegen ist es wichtig, in die Zeit zurückzugehen.
Ursula était une artiste, peut-être que moi aussi d'une certaine façon, et Boris Vian l'était avant tout. Il était avant tout un créateur.
Ursula Vian war eine Künstlerin, ich auch in einer gewissen Hinsicht, und vor allen Dingen war es Boris Vian, der zuallererst ein Schöpfer war.
Il fallait tout cet esprit d'ouverture pour savoir quoi faire d'une œuvre aussi immense qui vous tombe sur les épaules quand vous avez 30 ans, ce qui a été le cas d'Ursula.
Man muss wissen, was man machen will, wenn man ein solches Werk plötzlich auf seinen Schultern mit 30 Jahren trägt.
Finalement, quand Boris Vian se sent définitivement malade, il ne croit pas au futur, il ne croit pas à sa notoriété, il n'en parle jamais.
Also da sich Boris Vian zutiefst als Kranker empfindet, redet er nie über die Zukunft. Il n'en parle jamais et...
Il n'en parle jamais et il ne prévoit rien dans
Und
son
er
futur.
Sieht nichts in seiner eigenen Zukunft vor.
Donc pas de testament, pas d'ordre de mission, pas d'éditeur, il n'y a rien en fait.
Also es gibt, in der Tat gibt es nichts, also kein Testament, keinen designierten Verleger, keine Bestimmungen, die seine Nachfolge regeln.
Mais, aber, c'est je peux dire, mais, il y a le Collège de Pataphysique.
Ah ja, es gibt das Collège de Pataphysique. Vous avez expliqué ce que c'est?
Le Collège de Pataphysique est un organe qui s'est créé en 1938, bien après la mort d'Alfred Jarry, puisque c'est l'initiateur du Collège de Pataphysique.
Also dieses Collège de Pataphysique, eine Vereinigung von, sagen wir, Künstlern, ist 1938 gegründet worden, nach dem Tod von Alfred Jarry. Also Sie kennen sicherlich Alfred Jarry, Le Roi und so weiter.
Pour vous donner une définition simple, on pourrait dire que c'est la science des exceptions.
Es ist die Wissenschaft der Ausnahmen.
Par exemple, on peut dire aussi que c'est la science des solutions imaginaires.
Es ist die Wissenschaft der imaginären Lösungen.
Ça peut paraître très flou et très drôle, ou prêter même à confusion. En réalité, c'est un travail immense que ces gens-là ont organisé pendant des années et des années, et encore aujourd'hui.
Also auch wenn das unscharf oder komisch erscheinen mag, ist das eine enorme Arbeit, die diese Menschen geleistet haben und auch heute noch leisten.
On disait que Boris Vian était le plus pataphysicien, pardon, de tous les pataphysiciens.
Man sagte, dass Boris Vian der pataphysischste aller Pataphysiker sei.
Pour vous citer quand même quelques noms émérites, il y a bien entendu, je dis bien entendu à travers ses pièces, c'est une évidence totale, Monsieur Eugène Ionesco et Raymond Queneau, par exemple.
Also, unter den bekanntesten gibt es Eugène Ionesco und Raymond Queneau, zum Beispiel.
Mais également des réalisateurs comme René Clair ou des peintres comme Miro.
Also, Regisseur wie René Clair oder Maler wie Miro.
Également de grands professeurs de mathématiques comme François Le Lionnais.
Also auch große Mathematiker wie François Le Lionnais.
François Le Lionnais, du reste, a un lien avec Roubaud, qui est un grand poète contemporain. Dans la chambre, il y a d'ailleurs toute une revue qui lui est consacrée. Et Roubaud fait partie de l'Oulipo.
Ça c'est très difficile à expliquer.
Voilà.
C'est l'ouvrage de littérature potentielle.
Hein, c'est ça, avec Georges Perec notamment.
Vous avez compris.
On va dire qu'après après la mort de Boris Vian, l'Oulipo a été créé par Raymond Queneau en 1960. Juste pour en dire un mot, parce que c'est toute l'écriture de Boris Vian qui est dans l'Oulipo déjà. L'Oulipo est créé sur la contrainte littéraire, sur vraiment les jeux de mots.
Also, c'est Raymond Queneau. Vous allez bien sûr encore parler de Raymond Queneau, le rôle qu'il a joué dans... Also über den wir noch sprechen werden, der eine sehr wichtige Rolle für Boris Vian gespielt hat, der 1960 nach dem Tod von Boris Vian das Oulipo die Werkstatt für potenzielle Literatur gegründet hat. Qu'est-ce que vous avez dit, vous dites, je me souviens plus.
Que c'était la contrainte littéraire.
Ja, das ist den literarischen Zwang unterlag.
Voilà.
Der Wortspiele.
Pour vous dire le grand raccourci entre cette période de 1959 et celle de 1945, où Boris Vian va commencer à publier ses livres, Boris Vian écrit sur tous ses papiers d'identité « Je suis homme de lettres ». Ça, ça l'amusait beaucoup.
Also was,
joue avec les mots.
Also was Boris Vian besonders amüsierte, war, dass er auf all seinen Papieren schrieb, dass er also homme de lettres ist eigentlich ein Literat und lettre bedeutet im Französischen auch die Buchstaben. Also er sagt, ein Mann der Buchstaben.
Donc, puisque j'ai fait ce grand écart entre 1959 et 1945, je vais vous parler de Jean-Paul Sartre.
Da ich diesen großen Bogen zwischen 1945 bis 1959 gespannt habe, werde ich über Jean-Paul Sartre sprechen.
Et bien entendu, nous croiserons M. Raymond Queneau.
Und selbstverständlich werden wir Raymond Queneau begegnen.
J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Sartre plusieurs fois, ainsi que Simone de Beauvoir. J'étais très jeune, Sartre est mort en 80 et Beauvoir est morte en 84 et j'ai rencontré donc Ursula Vian en 76.
Also ich hatte das Glück, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir zu begegnen. Jean-Paul Sartre ist 1980 gestorben et Simone de Beauvoir 1984 und ich bin Ursula Vian 1976 begegnet.
Et malheureusement, j'ai raté Raymond Queneau qui venait juste de mourir.
Und leider habe ich 1976 Raymond Queneau verpasst, der gerade gestorben war.
Mais j'ai pu saluer et prendre dans mes bras M. Jacques Prévert, qui est mort l'année suivante.
Aber ich habe Jacques Prévert in die Arme schließen können und ihn grüßen können, der dann erst nächstes das Jahr darauf gestorben ist.
Car la maison où j'habite, qui est la maison de Boris Vian et d'Ursula Vian, c'est une maison qui est dans le Moulin Rouge et où le voisin le plus proche, sur le même palier, c'est la famille Prévert. C'était donc Jacques Prévert.
Also ich selbst wohne im Haus von Boris Vian und dieses Haus ist im Moulin Rouge und auf dem gleichen Flur findet sich die Wohnung von Jacques Prévert.
Et donc Boris Vian, lorsqu'il est mort, on va dire que Ursula Vian a eu comme une sorte d'amitié profonde et de protecteur en la personne de Jacques, qui est resté très proche. Et après, moi, je suis restée très proche avec la femme de Jacques Prévert, avec sa fille, et même encore aujourd'hui, la petite fille, etc. C'est comme ma deuxième famille.
Also nachdem Boris Vian verstorben war, hat eine tiefe Freundschaft Ursula Vian mit Jacques Prévert verbunden und sie hat also Jacques Prévert gekannt und hat die Kinder und Kindeskinder, also Enkel von Jacques Prévert, kennengelernt und ist mit ihnen verbunden.
Alors, revenons à 1945 et entre autres Jean-Paul Sartre et donc Saint-Germain-des-Prés.
Gehen wir also das Jahr 1945 zurück, also zu Jean-Paul Sartre und nach Saint-Germain-des-Prés.
C'est une période extraordinaire et très 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 douloureuse en même temps que cette libération. Et des artistes émergent, bien sûr, d'une façon très forte, dont Jean-Paul Sartre, qui, comme on l'a dit, est le pape de Saint-Germain-des-Prés.
C'est une besondere, aber auch eine sehr schmerzhafte Zeit, diese Libération, die Zeit der Befreiung von Frankreich und von Paris. Und unter diesen vielen Künstlern von Saint-Germain-des-Prés ragt also als Papst Jean-Paul Sartre heraus.
Boris Vian était nommé, lui, non pas le pape donc, ni même le cardinal, mais le prince, der Prinz, de Saint-Germain-des-Prés. Et Boris Vian, qui s'est toujours tenu à l'écart de la politique, de la chose politique, a trouvé le moyen non pas de lui tourner le dos, mais d'orienter en tout cas ses passions vers le jazz et d'aider quelque part et de rencontrer les autres à travers le jazz.
Also er hat sich nie großartig für die Politik engagiert, hat ihr den Rücken gekehrt und hat seine Leidenschaften ganz dem Jazz zugewendet.
Je fais tout de même une petite parenthèse avec la famille de Boris Vian, parce que j'ai été très très liée avec sa sœur et un de ses frères, et également avec sa première femme, qui est toujours vivante et qui a 95 ans.
Also, ich mache einen kleinen Exkurs zur Familie von Boris Vian, da ich sehr liiert war mit der Schwester, avec la sœur.
La sœur, un de ses frères.
Einen seiner Brüder und seiner ersten Frau, die immer noch lebt, die 95 Jahre alt ist.
Oui, qui est toujours vivante. Et donc je dois vous dire tout de même, c'est important, que ce que je vous rapporte là devant vous, ce que je fais depuis de nombreuses années, je ne l'ai pas appris dans les livres, car modestement, j'ai plutôt fait certains livres. Je l'ai appris directement de ces personnes qui ont vécu avec Boris, qui ont appris avec lui ou qui ont collaboré avec lui dans tout cet univers, que ce soit dans le monde de la littérature ou du jazz, ou dans la vie privée.
Also das, was ich Ihnen hier erzähle, habe ich nicht aus Büchern erfahren, sondern ich mache selbst Bücher. Ich habe das direkt von Boris Vian oder seiner Umgebung erfahren und ja, vermittle das seit einem Jahr.
Et à cette période, le jazz est donc très présent à Paris, et Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir fréquentent bien sûr les caves de Saint-Germain-des-Prés, où Boris Vian est un peu l'animateur et le trompettiste aussi.
Zu dieser Zeit, nach dem Krieg, sind also Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir sehr viel in diesen Jazzkellern unterwegs und Jazzkeller, in denen also in denen Boris Vian der Animateur ist und auch selbst Trompete spielt.
Il intrigue Jean-Paul Sartre. Boris Vian intrigue beaucoup Jean-Paul Sartre. Parce qu'effectivement, Boris Vian est un jeune homme, pour le décrire comme ça, dans, très élégant, discret, timide, sorti d'une grande école, l'école centrale, ingénieur, et en même temps trompettiste, qui n'est pas courant, si courant que ça à l'époque, et écrivain, et quelqu'un qui a une attitude toujours pleine, on va dire, de distance avec le quotidien, avec l'actualité.
Also, Boris Vian ist eine Gestalt, die für Sartre Rätsel aufwirft, denn ist sehr distanziert aus gutem bürgerlichem Hause, schüchtern. Und kommt aus einer der Grande École, nämlich der École Centrale, alors der Timide, École Centrale.
Elegant.
Elegant.
Très élégant.
Sehr elegant. Und ist verwundert eigentlich, sagt.
Oui, et quelqu'un qui a beaucoup de distance toujours avec justement l'actualité, qui fait toujours un peu dans l'exception, justement.
Also jemand, der immer eine gewisse Distanz zum Tagesgeschehen hat und immer die Ausnahme pflegt.
Et finalement, une amitié va se lier entre les deux hommes. Et Jean-Paul Sartre va demander à Boris Vian d'écrire des chroniques dans cette fameuse revue très célèbre qui s'appelle Les Temps modernes.
Also schließlich entsteht eine Freundschaft zwischen Jean-Paul Sartre und Boris Vian. Und Sartre wird Vian bitten, in seiner Zeitschrift Les Temps modernes Chroniken zu schreiben.
Et il faut trouver un sujet, il faut savoir qu'est-ce que Boris Vian va faire. Alors Boris Vian, il aime bien inventer des personnages, il s'est d'ailleurs inventé, j'en ai trouvé à ce jour, 73 pseudonymes. Alors il va s'inventer un personnage qui s'appelle le menteur.
Also, Boris Vian erfindet gerne Gestalten, erfindet sich selbst. Gestalten und die, also Madame Berthold hat 73 Pseudonyme von Boris Vian herausbekommen Und in diesem Fall nennt er sich der Lügner.
Et ces chroniques du menteur, pour Boris Vian, ça va être l'idée de faire croire qu'il est allé, par exemple, en Amérique, chose qu'il aurait bien sûr voulu faire, et de faire un reportage écrit sur l'Amérique, etc.
Also, das, zum Beispiel, also Boris Vian wäre natürlich sehr gerne nach Amerika gereist, aber seine Chronik tut dann so, als sei er nach Amerika gereist und erzählt dann von Amerika.
Mais, comme souvent, Boris Vian va transgresser, il va aller très loin, et un jour il propose à Sartre et à Beauvoir une chronique du menteur où on pourrait imaginer réinventer un nouveau temps moderne, une nouvelle revue des temps modernes. Et il va leur proposer un article avec toute une reconsidération des temps modernes vue par lui.
Eines Tages bietet also Boris Vian Sartre eine Chronik an, die zum Ziel hat, die Zeitschrift Temps Moderne aus seiner Sicht völlig neu zu gestalten und neu zu erfinden.
Ça ne va pas faire beaucoup rire Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Lui, ça le fait beaucoup rire, comme toujours. C'est toujours le potage, l'élève qui s'amuse dans son coin. Mais ça ne fait pas rire du tout Sartre et vire.
Sartre und Simone de Beauvoir lachen darüber überhaupt nicht und schließlich wird Boris Vian auch rausgeschmissen.
Donc, quelque part, c'est un provocateur, Boris Vian, toujours, partout.
Also, Boris Vian ist immer und überall ein Provokateur.
Lorsqu'il ira rencontrer Gaston Gallimard, qui est lui aussi un pape de la maison Gallimard, Boris Vian ira avec sa trompette et lui fera une demande de contrat en musique.
Also als Boris Vian dem wichtigsten französischen Verleger Gaston Gallimard begegnet, stellt er also seine Bitte um einen Vertrag bei Gallimard mit seiner Trompete und diese Bitte trägt er dann in Musik vor.
Ça amuse beaucoup Gaston Gallimard. Jusqu'au moment où ça ne l'amuse plus. Alors, il publie un premier ouvrage de Boris Vian, qui s'appelle « Vers coquin et le plancton ».
Das amusiert Gaston Gallimard bis zu einem bestimmten Punkt. Und er publiziert auch einen ersten Text von Boris Vian, « Vers coquin et le plancton ».
Et là où ça l'amusera moins, c'est quand Boris Vian va proposer « L'écume des jours ».
Da, wo es ihn weniger amüsiert ist, als Boris Vian in L'écume des jours, also Schaum der Tage, vorschlägt.
Gallimard ne sait pas quoi faire de ce livre. Il ne comprend pas très bien son contenu et il aura toutes les difficultés à ce qu'il soit présenté au jury du prix de la Pléiade, qui était un prix très très important donné par Gallimard à cette époque-là.
Also Gallimard, also der Leger versteht dieses Buch nicht und weiß nicht, was er damit machen soll, präsentiert es aber für den damals sehr wichtigen Preis, le prix d'appliquement?
Prix de la Pléiade.
Also so, den Preis der Pléiade. Also Pléiade ist die Klassiker-Sammlung, die bei Gallimard erscheint.
Et Boris Vian, dans son esprit, c'était évident qu'il allait être auteur, donc homme de lettres, chez Gallimard. Pour lui, c'était évident.
Donc, pardon. Pour Boris Vian, war das ganz evident, dass er also bei Gallimard Autor sein wird.
Malheureusement, lorsqu'il n'aura pas le prix de la Pléiade, ça va être une immense déception qu'il gardera au fond de lui jusqu'à la fin de ses jours.
Also, wenn er, also zu dem Zeitpunkt, als er diesen Preis nicht bekommt, wird das für ihn eine tiefe Enttäuschung sein, die er bis an das Ende seiner Tage halten wird.
Et comme souvent dans la vie de Boris Vian, c'est presque quelque chose de romanesque, puisque il n'a pas eu le prix, mais celui qui a eu le prix est un prêtre. C'est l'abbé Grosjean, qui a écrit nombre de recueils de poésie.
Also derjenige, der den Preis bekommen hat, ist ein Abt. Abbé Grosjean, der ganz viele Gedichtbände herausgegeben hat. Und sie sagt, es ist wie immer im Leben eine Verwicklung.
Alors, ils vont faire un personnage dans un prochain roman. L'abbé Rogent aura sa place dans l'automne à Pékin, un autre roman.
Ok, in seinem nächsten Roman ist dann l'abbé Rogent eine Figur von Boris Vian.
Bon, c'était assez anachronique parce que Boris Vian est très anticlérical et anti-institutionnel que de se voir supplanté par un prêtre.
Es war ziemlich anachronistisch und ziemlich hart für ihn, dass er ausgerechnet von einem Priester geschlagen wurde, da er sehr antiklerikal war.
Je refais un point avec la famille. Dans cette famille, le papa et la maman de Boris Vian sont des gens tout à fait extraordinaires.
Also ich komme auf die Familie zurück. In dieser Familie waren der Vater und die Mutter Boris Vians außergewöhnliche Menschen.
C'est pas si courant à cette époque, donc pendant la guerre de 14-18, car ils se sont mariés d'amour.
Also es ist damals, in der damaligen Zeit, nicht so häufig, während des Ersten Weltkriegs, sie haben also eine Liebesheirat vollzogen.
Le papa de Boris Vian a 16 ans quand il rencontre sa future femme qui en a 26.
Der Vater von Boris Vian ist 16, als er seiner zukünftigen Frau begegnet, die 26.
Il a demandé une dérogation au pape pour se marier mineur avec elle.
Il a also eine Ausnahmegenehmigung beim Papst erbeten, damit er als Minderjähriger sich mit ihr, damit er sie heiraten kann.
Et aussi pour ne pas aller à la guerre, puisque du coup il était devenu soutien de famille.
Und auch nicht um in den Krieg zu ziehen, da als Familienunterstützer war.
Et ces deux êtres s'aiment vraiment beaucoup. Ils sont issus d'une très grande famille bourgeoise, l'un et l'autre, et ils sont donc rentiers.
Beides stammen aus bürgerlichen Familien, lieben sich sehr und leben also von den Einkünften ihrer Familie.
Sa maman est pianiste et elle aimerait faire de l'opéra et elle prend des cours de chant pour être aussi soprano.
Also seine Mutter ist Pianistin und würde gerne Opernsängerin werden und nimmt Gesangunterricht, um Sopran singen zu können.
Elle joue beaucoup, beaucoup, énormément, le jour, la nuit, elle n'a pas d'horaire, elle vit comme elle en vit, d'une façon très fantastique.
Also sie hat keinen Zeitplan, sie singt tags, nachts, mittags, sie lebt völlig frei.
Son papa sait tout faire, c'est-à-dire de l'horlogerie, de la mécanique. Il parle couramment allemand, il parle couramment anglais, il fait de la traduction, il aime la menuiserie. Et très vite, il sera un compagnon de jeu pour ses quatre enfants qui arrivent à la queue leu leu.
Also sein Vater kann alles. Er liebt die Uhrmacherei, er liebt die Mechanik, er spricht viele Sprachen, er spricht fließend Deutsch und Englisch. Und ist ein hervorragender Spielgefährte seiner vier Kinder.
C'est une tradition dans la famille Vian. On parle l'allemand depuis plusieurs générations et Boris, à l'école, c'est la première langue qu'il apprend. Et Boris parle couramment allemand. C'est la raison pour laquelle il peut parler avec Ursula quand il la rencontre.
Also man spricht schon seit mehreren Generationen Deutsch in der Familie Vian. Und natürlich lernt Boris Vian als erste Fremdsprache Deutsch. Und das ist auch der Grund, warum er mit seiner zukünftigen Frau Ursula gleich Deutsch sprechen kann, als er sie zum ersten Mal trifft.
C'est une famille où on vit et où on éduque les enfants dans la totale liberté.
Das ist eine Familie, wo die Kinder in völliger Freiheit leben bzw. erzogen werden.
Les jardins sont des terrains de jeu magnifiques. Boris Vian s'en servira dans ses livres.
Also die Gärten sind wunderbare Spielplätze. Boris Vian wird das als Motiv in seinen Büchern nutzen.
Et il y a toujours la porte ouverte pour la famille ou les amis qui sont comme eux très nantis, très riches et qui voyagent dans le monde entier.
also die Tür steht immer allen Freunden und Familienangehörigen nah auf, die genauso wie Sie sehr bürgerlich sind und in der ganzen Welt herumreisen.
Les enfants vivants vont donc bénéficier finalement d'une éducation très très riche, mais pas comme les autres.
Also werden die Kinder der Vivants werden also eine sehr reiche, vielfältige Erziehung genießen, aber die nicht so ist wie die der anderen Kinder.
Au début, ils vont être éduqués par un précepteur à la maison, comme ça se fait souvent dans les grandes familles. Ils ont un précepteur qui vient tous les jours. Et après la crise de 29, à partir de 1930-31, où la famille n'aura plus d'argent, ils iront à l'école.
Also zunächst werden die Kinder von einem Privatlehrer, also in Deutschland heißt es ein Hofmeister, unterrichtet. Und nach 1929, nach der Wirtschaftskrise, müssen also die Vivant-Kinder, wie andere Kinder auch, in die öffentliche Schule.
Donc, vous voyez le mécanisme de l'éducation de la famille de Boris Vian. C'est-à-dire que Boris Vian naît en 1920, de parents aimants, libres, libertins, très cultivés, et puis avec, bien sûr, tous les moyens qu'il faut pour bien vivre. Et puis, il y a une deuxième vie chez Boris Vian, celle quand il a 10 ans, où ils vont perdre tous leurs moyens et où le père va devoir aller travailler.
Also es gibt, Sie haben verstanden, es ist eine sehr freie Erziehung. Boris Vian ist 1920 geboren und genießt also große Freiheiten in seiner Erziehung. Und es wird ein zweites Leben in der Erziehung von Boris Vian geben, ab seinem 10. Lebensjahr, wo er dann in die Schule gehen muss und wo sein Vater anfängt, eine Arbeit zu nehmen.
C'est un véritable drame dans la famille, hein? D'aller voir le père qui travaille, car ce père n'a finalement pas de métier. Et donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire?
Also, c'est un echtes Drama in dieser Familie, diesen Vater zu sehen, der plötzlich arbeiten muss, denn er hat keinen eigentlichen Beruf. Was kann er tun?
Alors, il va finalement aller travailler sur les marchés et il va défendre une petite potion, qu'on dit magique, qui est la potion de l'abbé. Encore un
prêtre.
Chopitre. L'abbé Chopitre.
Okay. Sur les marchés. Er wird schließlich auf den Märkten arbeiten und ein Wundermittelchen, einen Wundertrank verkaufen, das Abbé Chopitre.
C'est un élixir qui existe toujours, qui est fait à partir de plantes homéopathiques extraordinaires. Et vous voyez ce pauvre homme partir avec sa voiture sans chauffeur, avec des caisses de potions d'élixir de l'abbé Chopin, parcourir les marchés comme ça. C'est un véritable drame pour eux. Ça n'en serait pas pour d'autres. Pour eux, c'est un véritable drame.
Also, dieses Elixir, dieses klassische homöopathische Elixir existiert auch heute noch. Und wir sehen also diesen Mann, das ist für sie ein Drama, für andere wäre das kein Drama, also mit einem kleinen Wagen und den ganzen Kisten an den Wundermittel aufbrechen.
Plus tard, il rentrera dans une agence immobilière avenue de l'Opéra à Paris. Il travaillera pour cette agence immobilière.
Später wird er beim Immobilienmakler in der Nähe von l'Opéra arbeiten.
Donc, il y a beaucoup de douleur d'un côté, mais il y a quand même aussi toujours la liberté et la joie des enfants. Je vous raconte une anecdote pour dire, juste pour illustrer l'extrême amour qu'avait la maman pour ses enfants.
Also es gibt einerseits diese Schwierigkeit, aber andererseits immer noch die große Freiheit und Freude der Kinder. Ich möchte Ihnen jetzt eine Anekdote der Mutter erzählen, die große Liebe der Mutter zu ihren Kindern zeigen soll.
Le petit frère de Boris Vian, qui avait un an et demi de moins que Boris Vian, ne fichait rien à l'école, n'apprenait jamais ses devoirs, ne faisait jamais ses devoirs, n'apprenait jamais ses leçons.
Also der kleine Bruder, der anderthalb Jahre jünger war als Boris Vian, machte nie seine Hausaufgaben, lernte nichts und war absolut untätig, was schulische Dinge betrifft.
Ça a duré très longtemps, mais tous les soirs, la mère lui demandait, alors ça s'est bien passé, il sortait ses cahiers pour montrer qu'il avait des zéros partout, et la maman disait toujours, inlassablement, c'est très bien mon fils.
Also er hatte immer die schlechteste Note, seine Schulhefte zeigen musste am Abend. Und die Mutter sagte unweigerlich jedes Mal, das ist sehr gut, mein Sohn.
Quant à Boris Vian, c'était la facilité la plus déconcertante. Et ça, dès sa prime jeunesse. Ils ont tous appris à lire, à écrire très jeunes, vers 5-6 ans, c'est vrai. Ils ont beaucoup lu, etc. Mais Boris Vian avait quelque chose en plus, ce qu'on appellerait aujourd'hui un surdoué.
Also, was bei Boris Vian hervorstach, war seine verblüffende Auffassungsgabe. Alle Kinder haben sie mit 5-6 Jahren lesen und schreiben gelernt, aber man würde ihn heutzutage als überbegabten bezeichnen.
Très tôt, il s'est construit un monde, des mondes, beaucoup de mondes à lui.
Also sehr, sehr schnell hat er sich eine Welt, mehrere Welten, Welten, die ihm gehören, konstruiert.
Donc vous voyez, je vous fais la construction encore une fois du petit garçon et qui devient petit à petit, bien sûr, un beau jeune homme, hein, comme les autres frères et sœurs, pour arriver aux surprises parties.
Also ich zeige Ihnen den Werdegang von kleinen Jungen bis zum jungen Mann auf, um schließlich zu den surprise parties. Comment on appelle ça? Das würden Sie so sagen, okay, meinetwegen, also Überraschungspartys, surprise party zu kommen.
En fait, à partir de 1935, donc Boris Vian a 15 ans, avec ses frères, ils vont s'intéresser au jazz en tant qu'amateurs, donc musiciens, et collectionneurs de disques. Ça, c'est très important.
Ab 1935, Boris Vian ist also 15 Jahre alt, wird sich mit seinen Brüdern für Jazz interessieren und wird sich speziell, das ist sehr wichtig, für die Platten, die Jazzplatten interessieren.
Ces disques sont dans des très beaux coffrets et sont toujours à la maison. Boris Vian les a toujours amenés avec lui partout.
Also Boris Vian hat diese Schallplatten, diese Jazzplatten immer mit sich aufbewahrt und immer bei sich zu Hause gehabt. Und sie sind in sehr schönen Schallplattenverpackungen enthalten.
Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'il n'a que 15 ans, mais il absorbe une connaissance absolument incroyable de tout ce qui se fait en jazz à ce moment-là, parce qu'il fait venir, bien sûr, les disques d'abord des États-Unis, mais aussi d'Australie, de Belgique, d'Angleterre.
Also er saugt alles in sich auf, was es zu dieser Zeit zum Jazz gibt, und lässt sich Schallplatten nicht nur aus Amerika, sondern auch aus Australien, so wie die Australie,
la Belgique, l'Angleterre
und England kommen.
Et comme la maman a très peur qu'on lui enlève ses trois beaux garçons.
Und da die Mama Angst hat, dass man ihre drei schönen Jungs wegnimmt.
Et qu'ils ont une grande maison avec un grand jardin.
Und da sie ein großes Haus mit einem großen Garten haben.
Il est beaucoup plus intéressant de faire venir les surprises parties et les joyeux lurons chez elle.
Und es ist sehr viel beruhigender für sie, also die Überraschungspartys und die lustigen Kumpel von Boris Vian ins Haus